Les cours du Collège de France, physique de la matière condensée, Antoine Georges.
Aujourd'hui, on a un programme particulièrement riche. En effet, il y a deux séminaires. Donc, à 11h30, à l'heure habituelle, on a le séminaire de Tariq Efsa, qui va nous parler de microscopie dans les pièges. Et ce séminaire aura lieu ici, comme d'habitude. Et puis, on a un séminaire exceptionnel à 14h de Shi Weizhang, nous fait l'honneur de nous rendre visite quelques jours, à 14h. Et donc ça sera, si ma mémoire est bonne, en salle 2. Voilà. Donc, un théoricien, un expérimentateur, un théoricien pour le séminaire. Alors, je vous rappelle que, comme toujours, il y a une mailing list, vous savez déjà tout ça. Le programme d'aujourd'hui est assez chargé ou riche selon les goûts. Je vais vous parler d'équations d'état à deux dimensions. Donc ça, c'est des choses que je n'avais pas tout à fait eu le temps de terminer la dernière fois. Ce sont des très belles expériences de Michael Kuhl à Cambridge puis à Bonn. Et ensuite, ça va clore un petit peu, si vous voulez, la première phase des études expérimentales des systèmes de fermions dans les réseaux. Donc, qui ont lieu sur une dizaine d'années, entre 2007 et 2017. Et puis, on va voir comment, à partir de ce moment-là, des progrès importants ont été faits dans le domaine du point de vue expérimental, à la fois du point de vue de la visualisation. Je vais vous parler de microscopie, donc ça va bien s'articuler avec le séminaire de Tariq. Et puis, je vais aussi vous parler de refroidissement. Et on verra comment tout ça culmine dans l'observation de l'antiferromagnétisme à longue portée, d'abord à deux dimensions, puis même, tout récemment, à trois dimensions. Et on terminera, j'espère, si j'ai le temps, en parlant un petit peu d'effets dits Pomerantchuk. Alors, petit rappel de la fois dernière, on peut, en utilisant les équations qui sont ici, c'est-à-dire les équations LDA et la connaissance de l'équation d'état du gaz homogène, on peut établir une sorte de diagramme des états, si vous voulez, ou des configurations du système dans un piège harmonique en fonction des deux paramètres qui sont la densité normalisée. Donc on avait défini cette densité, ça c'est à trois dimensions, n fois le potentiel de piège à la puissance 3,5 sur la demi-largeur de bande, à la puissance 3,5, donc rho, et on exprimait tout en unité de la demi-largeur de bande. Et on avait vu que dans ce plan rho U, il y a différents régimes pour la forme de la densité. Alors, je crois que j'ai ça quelque part, je ne sais plus où. Oui, voilà. Donc, on a un régime où tout est, disons, liquide. On a un régime avec un état de Mott, avec une particule par-ci dans le centre du piège, donc un état comme ça. Avec une densité qui est en première approximation bloquée à 1 à cause de l'incompressibilité de l'état de Mott. Ensuite, quand on augmente la densité, on est bien obligé de rajouter des particules. Elles sont rajoutées au centre parce que c'est là où le piège est le plus profond. Et il y a une couronne, une couronne latérale avec n égale 1 qui se produit. Et puis ensuite, quand on augmente encore la densité, bien sûr, on a le centre du piège avec n égale 2. Et on avait vu que les premières expériences, donc à la fois dans le groupe de Tillmann et Slinger à Zurich et dans le groupe d'Emmanuel Bloch à l'époque, je pense encore à Mainz, montraient qu'il y avait effectivement, en fonction de la compression dans le piège qui est reliée à cette échelle d'énergie Vt, on avait vu qu'il y avait un palier dans lequel le rayon du piège ne dépend plus dépend faiblement du degré de compression, et que ce palier correspondait bien à ce qu'on attend du point de vue théorique. Tout ça se passant, comme j'insisterai sur ce point dans la suite, à relativement haute température. On verra ce que ça veut dire exactement, haute température. Alors, ce dont je voudrais vous parler maintenant, pour terminer un petit peu ces études-là, c'est des jolies expériences qui ont eu lieu dans le groupe de Michael Kuhl à Cambridge, puis à Bonn, il y a à peu près une dizaine d'années, dans lesquelles, pour un système bidimensionnel cette fois, donc 2D, il a été capable d'accéder directement à l'équation d'état et également directement à la thermodynamique du système. Alors, ces expériences fonctionnent de la manière suivante. Donc, il y a un réseau bidimensionnel qui est créé, et puis par imagerie d'absorption, je ne rentre pas dans les détails, je ne crois pas que j'en sois totalement capable d'ailleurs pour cette expérience-là, ils ont été capables de mesurer la densité de sites simplement occupés et la densité de sites doublement occupés. Donc vous voyez ici, si je ne me trompe pas, j'ai un petit peu du mal à voir mes propres slides, mais vous voyez ici les profils de densité dans le piège. Je crois qu'en bleu, c'est les sites simplement occupés. Est-ce que j'ai raison? Oui. Et on crée en centre de piège un régime où il y a à peu près une particule par site. Donc ces expériences atteignaient le régime incompressible, le crossover vers le régime incompressible de Mott. Alors, en faisant une mesure précise de ces profils de densité, et en utilisant l'approximation LDA, ils sont capables de reconstituer N en fonction de mu. Et donc vous voyez ici la densité dans le système en fonction de mu moins u sur 2. Alors je vous rappelle que dans le modèle de Hubbard, à demi-remplissage, mu est coincé à u sur 2. Donc mu moins u sur 2, c'est vraiment la distance au demi-remplissage. Et ici, la densité, elle est exprimée en nombre de particules totales. Donc, en nombre de particules par espèce de spin. Donc ici, l'isolant de mode correspond à n égale 1,5, n sigma égale 1,5. Donc la somme sur les deux espèces de spin égale 1. Et donc vous voyez comment, quand on change la température, à partir de... Alors on verra comment la température est exprimée, est estimée. Ces résultats ici sont pour une température fixée, 1,35, et puis ensuite il y a des valeurs de U différentes à différentes températures estimées, et donc vous voyez comment se forme l'isolant de Mott en centre de piège, et les lignes en très plein ici, que vous avez peut-être un peu de mal à distinguer des points expérimentaux, sont un ajustement des données qui utilisent essentiellement des méthodes de série haute température. J'avais déjà parlé, je pense, la dernière fois de l'estimation de l'entropie dans le système à partir simplement des séries haute température au deuxième ordre. C'est plus sophistiqué que ça, c'est ce qu'on appelle numerical link cluster expansion, mais en fait c'est essentiellement générer sur l'ordinateur des séries haute température, donc en puissance de bêta t, où bêta est l'inverse de la température et t est le hopping. Et donc vous voyez qu'on arrive avec ces séries haute température à ajuster très bien les résultats expérimentaux, et c'est par comparaison à ces séries que la température est estimée. Alors, tous ces nombres ici, j'attire votre attention sur eux. Vous voyez que la température est toujours, de l'ordre du hopping. Ici, c'est la plus froide, de l'ordre de 0,6. Je pense que c'est la température la plus froide qu'ils avaient obtenue dans ces systèmes. Ces séries haute température, elles marchent bien jusqu'à, en gros, bêta d'ordre 1, peut-être 1,5, quelque chose comme ça. Donc on est un petit peu à la limite d'applicabilité des méthodes théoriques qui avaient été utilisées dans cet article. On peut évidemment faire beaucoup mieux du point de vue de la simulation. Je vous en parlerai en détail la prochaine fois. On verra ça aussi dans le séminaire de Shiwei, j'en suis sûr. Alors, il y a aussi une détermination dans cet article. Alors, je crois, en prenant une dérivée numérique de ces données interpolées, de la compressibilité. Et donc, vous voyez comment, quand on baisse la température, on obtient un régime avec une faible compressibilité en centre de piège. Et ça, c'est le profil des doubles occupations en fonction de la densité. Donc, une détermination de l'équation d'état. Donc, l'équation d'état, c'est-à-dire la dépendance de la densité en fonction du potentiel chimique et de la température, disons, et une comparaison détaillée à la théorie. Ça, c'est des choses sur la dépendance en température, où on voit que, au fur et à mesure qu'on baisse la température, on forme l'état de Mott de plus en plus clairement, et puis la double occupation, la fraction de double occupation diminue. À partir de ces données, de ces mesures d'équation d'état, on peut reconstituer en fait toute la thermodynamique du système, et on peut reconstituer l'entropie dans le piège. Donc je vais vous montrer comment ça marche en refaisant un petit peu de thermodynamique simple. Donc il y a deux manières de regarder le problème. On peut regarder le problème à densité donnée ou à potentiel chimique donné, selon qu'on se place dans un ensemble ou dans l'autre. Donc je vais commencer par faire les choses à densité donnée. Donc ça, c'est l'énergie libre du système. Donc ici, j'écris une quantité petit f qui est l'énergie libre par site du réseau. Donc l'énergie par site du réseau, fonction de la densité par site, donc la densité totale, Ne plus N down, normalisée au nombre de sites, et de la température, c'est la différence entre l'énergie interne moins T fois l'entropie. Donc vous pouvez exprimer sa différentielle comme la somme d'un travail et d'une chaleur. Le travail, ça va être mu dN, ou mu le potentiel chimique. Donc mu, c'est la dérivée de l'énergie libre par rapport à la densité de particules. Et puis TdS, donc qui est la delta Q, qui est la chaleur. Et donc vous voyez que si je prends dF ici, le terme en TdS disparaît, comme d'habitude, et donc la différentielle de l'énergie libre, c'est mu dN moins sdt. Donc mu, c'est la dérivée de l'énergie libre par rapport à N, et moins S, c'est la dérivée de l'énergie libre par rapport à T, à nombre de particules constant, à densité constante. Je peux faire une transformée de Legendre de cette chose pour travailler dans un potentiel chimique fixé. Donc je vais définir F moins mu N, mais dans lequel N doit être vu comme une fonction du potentiel chimique, de manière que la nouvelle fonction que j'appelle ici oméga, le grand potentiel par site du réseau, soit une fonction de mu. Et donc en faisant un petit calcul, vous voyez que d oméga, donc le terme en moins sdt ne change pas bien sûr, puisqu'on a fait la transformée de Legendre par rapport à N, mais le terme de dérivée devient moins n dmu. Donc moins n, c'est d oméga dmu, à température constante. Et dans tout ça, n doit être vu comme une fonction de mu et de t, ce qui est la bonne manière de regarder le problème, puisqu'il travaille dans l'approximation LDR. Alors, on peut facilement voir que la connaissance précise de n, de mu et de t suffit à déterminer la thermodynamique du système, en fait, et à reconstituer même l'entropie du système à cause de ces relations qui sont là. Donc d'abord, la connaissance de N, de mu et de T me donne la pression. La pression, c'est moins la dérivée de l'énergie totale par rapport au volume total. Le volume total, c'est le nombre de sites fois la maille du réseau à la puissance D. Ici, j'écris ça pour un réseau cubique D-dimensionnel. Donc l'énergie totale, ça va être le nombre de sites fois l'énergie libre par site, qui est une fonction, comme on l'a vu, de la densité par site, donc N sur NS et de T. Donc maintenant, je dois prendre une dérivée de ça par rapport essentiellement à NS, à un facteur à puissance D près. Et quand vous faites ce calcul, à puissance DP, il y a donc deux termes, un qui vient de la dérivée ici et un qui vient de la dérivée là. Il y a un terme NDFDN et un terme moins F. Donc vous obtenez mu N moins F, ce qui est exactement l'opposé du grand potentiel. Donc la pression est directement donnée par le grand potentiel et par intégration de la relation qu'on a vue tout à l'heure, où d oméga d mu c'est la densité, eh bien on peut reconstituer, si on a mesuré n de mu et de t, on peut reconstituer la pression dans le système en fonction de mu et de la température par intégration. Alors évidemment, il s'agit de données expérimentales, hein, donc il faut interpoler pour intégrer, etc. Donc ça, c'est la pression dans le système, et de la même manière, on peut regarder l'entropie du système. Donc comme on l'a vu, l'entropie, c'est moins la dérivée du gros potentiel par rapport à la température à potentiel chimique fixé. Au passage, je note qu'il y a une relation de Maxwell. Si je prends la dérivée de S par rapport à mu à T fixé, vous voyez que ça me donne une dérivée seconde, moins D2 oméga DT D mu, qui n'est autre, en inversant les dérivées, que la dérivée du nombre de particules par rapport à la température à mu fixé. Et donc vous voyez qu'on peut reconstituer, si on a une connaissance de l'équation d'état en fonction de la température et de mu, on peut reconstituer l'entropie dans le système par intégration. Donc il faut dériver puis intégrer, hein, donc ça a conduit à des barres d'erreur forcément, mais vous voyez ici que l'entropie en fonction de mu et de t peut être obtenue par l'intégration, alors de moins l'infini, ça veut dire jusqu'au bord du système où il n'y a pas de particules, hein, puisqu'on a un profil de densité comme ça, jusqu'à la valeur mu qui nous intéresse, de la dérivée de n par rapport à la température. Alors, au passage, je voudrais noter que ce genre de méthode pour déterminer l'entropie dans un système physique qui n'est pas une quantité immédiatement mesurable de manière si simple, c'est quelque chose qui est utilisé dans d'autres contextes. Il y a un très joli article assez récent, une dizaine d'années, de Josh Falk, même pas 7 ans, de Josh Falk, qui propose la mesure de l'entropie dans les systèmes mésoscopiques, dans les quantum dots en fait, en utilisant une relation de Maxwell analogue, en utilisant le fait que la dérivée de l'entropie par rapport à N, qui sera dans ce contexte-là la charge, est égal à d mu dt, mu s'interprète dans ce contexte comme une tension de grille. Et donc, en mesurant de manière précise les spectres de blocage de Coulomb dans ces systèmes, on peut remonter à l'entropie, et ça a même conduit à un projet ERC, au passage, un projet ERC Synergy, qui réunit Josh Falk, Frédéric Pierre, Yigal Meir, et je crois Klaus Enslin. Sur ces sujets. Voilà, donc c'est exactement ce genre de choses qu'a utilisé Michael dans ses expériences à Bonn. Et donc vous voyez ici une reconstitution par ces méthodes, l'entropie en fonction du potentiel chimique. Donc ici, on est dans un régime de haute température, le régime rouge, vous voyez, où l'entropie est assez grande. Et puis quand on refroidit, donc encore une fois, les températures les plus basses qui ont été estimées dans ces expériences, c'est autour de 0,7 en unité du Hopping, vous voyez qu'on atteint en centre de piège, donc mu égale 0, ou là où on a créé l'isolant de Mott, enfin le régime incompressible, on atteint une entropie qui est de l'ordre de log 2, de log 2 par site. Et ça, c'est exactement ce à quoi on s'attend si on a gelé toutes les fluctuations de densité et qu'il ne nous reste que les fluctuations entre l'état up et l'état down, donc ce qu'on appellerait en matière condensée les fluctuations d'un moment local de spin par site. Évidemment, si on baisse la température encore plus, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des corrélations qui vont s'établir entre ces moments locaux. Le système va vouloir former, dans ce cas-là, quelque chose qui va être un antiferromagnétique et l'entropie doit encore baisser. Donc vous voyez que dans ces expériences, on avait bien atteint ce régime d'incompressibilité de Mott, mais pas encore le régime où se développent des corrélations magnétiques entre moments magnétiques. Ça, c'est ce qui va se passer dans la décennie suivante. Donc cette courbe ici, vous voyez S en fonction de mu, donc l'entropie est bloquée en gros à log 2 en centre de piège, et puis il y a une L ici quand on commence à s'écarter, ce qui veut dire qu'on dope le système en fait, eh bien l'entropie devient plus grande parce que il y a des fluctuations de densité. Et c'est bien exactement ce qu'on avait dans les calculs que je vous ai montrés la dernière fois. Ça, c'est des calculs dans l'approximation de champ moyen dynamique, mais qui est assez précise à ces températures-là. Vous voyez qu'à haute température, on a un profil d'entropie qui excède largement log 2. Et puis, quand on refroidit le système, on est bloqué à log 2 ici. Puis, il y a ces espèces d'oreilles ici qui correspondent à une entropie supérieure due aux fluctuations de densité. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est un petit peu l'état de l'art il y a 7-8 ans, et 10 ans, et c'est des très belles expériences, je trouve, qui déterminent directement l'équation d'état du système bidimensionnel. Mais aussi belles que soient toutes ces expériences, elles soulignent aussi le fait que le système est encore relativement chaud, d'une part, et donc il est sûr que pour avoir des états d'une part, qu'ils soient des états plus intéressants, des états collectifs fortement corrélés, qui nous intéressent tous et toutes, il faut arriver à refroidir. Donc ça, c'est le premier défi. Et une autre chose qui a profondément transformé le sujet, c'est que, comme on l'a vu au cours des deux cours précédents, le potentiel de piégeage harmonique, c'est à la fois une malédiction et une bénédiction. C'est une bénédiction parce qu'on peut étudier le système, comme on vient de le voir, dans un même système expérimental, on peut étudier toute une gamme de densités, donc ça c'est très joli, ça permet par exemple ces travaux de reconstitution de l'équation d'état, mais c'est aussi une malédiction parce que quand on veut créer vraiment un système homogène, par exemple si on veut s'intéresser au modèle d'Hubbard dopé et avoir une densité contrôlée, sur un grand nombre d'atomes, ben ça va être un peu difficile de faire ça si on a un potentiel harmonique. Donc, il y a eu tout un travail qui a été fait par les groupes expérimentaux pour créer des pièges plus plats. Et je dirais même pour faire de l'ingénierie du potentiel de piégeage. Et on va voir ça, on va voir que cette capacité à moduler le potentiel de piégeage en fonction de la position et même de le changer au cours de l'évolution du système, ça a été essentiel pour le refroidissement des atomes dans ces systèmes. Donc, piégeage, contrôle du potentiel de piégeage. Et puis, dernier développement qui a été très important dans le sujet, c'est le développement de nouvelles sondes expérimentales, et en particulier les techniques de microscopie, donc je vais vous parler dans quelques minutes, et dont Tariq nous parlera aussi dans son séminaire. Donc voilà, c'est ces trois choses dont je voudrais vous parler. Alors, je dis que ces systèmes sont un peu chauds, si on veut être un petit peu plus quantitatif. Je vous rappelle en gros le diagramme de phase qualitatif du modèle d'Hubbard à demi-remplissage, répulsif ou attractif, puisqu'il y a cette correspondance. Dans ce cas-là, cette phase serait la phase supraconductrice ou suprafluide. Vous voyez qu'en unité de la demi-largeur de bande d'un réseau cubique, alors de nouveau ici ça s'appelle J parce que c'est des vieux transparents à l'époque où les gens appelaient ça J, vous voyez que dans ces unités-là, le maximum de la température de Néel est autour de 0,06, ou si vous voulez en unité de Hopping, c'est de l'ordre de 1 tiers à peu près. Vous pouvez retenir ça. En gros, c'est là où est le maximum de la température de Néel. On va voir ça dans les simulations numériques dans quelques instants. Et à l'époque, on était donc plutôt dans ce régime de température ici. Donc on voyait le crossover de Mott entre le régime liquide et le régime incompressible, mais on était quand même assez loin de l'ordre antiferromagnétique à longue portée. Donc maintenant, ce dont je voudrais vous parler, c'est des techniques de refroidissement qui ont permis d'avancer dans ce sujet. Et qui dit température dit aussi entropie. Et en fait, il vaut mieux réfléchir au refroidissement dans ces systèmes en termes d'entropie. On peut dire que tous les progrès sur le refroidissement, c'est des progrès qui ont été faits en réfléchissant à comment on peut contrôler l'entropie spatialement dans le système. Donc évidemment, ce qu'on veut faire, c'est créer une zone dans la cellule où l'entropie est petite, quitte à pousser les régions d'entropie élevées en dehors de la zone qui nous intéresse pour faire des expériences. Donc ça, c'est des propositions qui ont émergé, je dirais, il y a 10-15 ans, une quinzaine d'années. Il y a d'abord eu un article de Jason Ho qui proposait ça, si mes souvenirs sont bons, des mélanges en utilisant un mélange fermion-boson. Et puis avec Corinna Collat, qui sera notre oratrice dans 2 semaines, on a proposé, avec Jean-Sébastien Bernier toute une série de collaborateurs, on a proposé, dont Michel Keul également, on a proposé une méthode pour refroidir les fermions en changeant le potentiel de confinement. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça ? Expérimentalement, je ne suis pas un spécialiste, mais en gros, on peut créer des potentiels de confinement qui soient contrôlables et de forme contrôlable en utilisant ce qu'on appelle des digital mirror devices, qui sont des petits devices dans lesquels il y a des micro-miroirs dont l'orientation peut être choisie. On la programme sur ordinateur et ça permet de contrôler le potentiel de piégeage. Alors notre proposition qu'on a faite à l'époque, c'était la suivante. C'était de créer en centre de piège un puits du potentiel de confinement, de manière que la densité soit grande en centre de piège. Et l'idée, c'était de créer un isolant de bande en centre de piège avec deux particules par site. Deux particules par site, ça va être un état isolant de bande et donc ça va être un état d'entropie essentiellement zéro, puisque rien ne peut bouger. Et puis évidemment, le reste du système, c'est là où vont se trouver les zones de grande entropie, donc avec beaucoup de fluctuations de densité. Et il va falloir les isoler. Donc pour ça, on va monter des barrières ici, de manière à isoler ces zones de plus grande entropie. Alors évidemment, tout le problème, et ça c'est un grand défi expérimental, hein, c'est facile de, d'avoir ce genre d'idée, enfin relativement facile d'avoir ce genre d'idée théorique, mais ensuite il faut le réaliser au laboratoire. Tout le problème, c'est d'arriver à moduler ce piège, à faire l'ingénierie de ce piège, sans qu'on réchauffe la région centrale. Donc c'est un des problèmes. Et puis ensuite, alors la proposition qu'on avait, c'était, qui n'est pas celle qui a finalement été réalisée expérimentalement exactement, c'était en fait d'enlever ces atomes qui sont les atomes chauds, par exemple par une transition radiofréquence pour les basculer dans un autre état hyper fin qui ne nous intéresse pas, où ils n'interagissent pas, et puis ensuite eh bien, d'abaisser les barrières pour avoir... par exemple, l'état de Mott avec, de nouveau, avec une particule parsite. Alors, en fait, essentiellement, ce type de processus, comme vous allez le voir dans quelques instants, a été réalisé tout récemment, enfin, depuis quelques années, dans l'équipe de Markus Greiner à Harvard. Mais ils font plus simple que ça, en fait. Vous allez voir ce qu'ils font. Voilà. Donc, ça, c'est des calculs théoriques qu'on avait faits en proposant une forme précise du potentiel de piège. Et ce qu'on avait montré, donc, en utilisant le type d'équation très simple sur l'équation d'état que je vous ai montré tout à l'heure, ce qu'on avait montré, c'est qu'en partant d'un système dans le piège parabolique, dans le piège harmonique, qui avait une entropie par particule élevée, donc disons de l'ordre de 1 ou plus, eh bien on pouvait, en perdant un nombre relativement modéré d'atomes, atteindre une entropie finale qui serait un facteur 10 plus petit dans la région centrale. Et par ailleurs, on avait également, enfin, Corina Collat et Jean-Sébastien avaient fait des calculs des MRG à une dimension pour montrer qu'on pouvait, à une dimension, c'est plus simple numériquement, pour montrer que des calculs dépendants du temps, pour montrer qu'on pouvait effectivement implémenter cette dépendance en temps du potentiel de piégeage sans réchauffer de manière excessive le centre de piège. Voilà, donc ça c'est notre article dans FISREVA il y a déjà pas mal d'années. Et tout récemment, et sans doute Chi-Wei nous parlera plus de cet article peut-être dans son séminaire, tout récemment des températures records ont été atteintes dans ces systèmes essentiellement grâce à ce schéma, mais implémenté avec beaucoup de talent expérimental et aussi différentes astuces dont je vais parler maintenant, brièvement. Par comparaison aux simulations numériques, les températures les plus basses estimées dans cet article récent sont maintenant de l'ordre de la température sur le hopping de l'ordre de 0,1. Donc vous voyez qu'on a gagné un bon facteur 6 par rapport aux expériences que je montrais tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, et ça on va le voir beaucoup plus en détail au prochain cours, c'est que ces températures commencent à poser de sérieux défis au calcul numérique. Ce n'est pas qu'on ne puisse pas calculer dans ce régime, on peut encore calculer dans ce régime, mais enfin ça commence à devenir d'une part physiquement intéressant, parce que c'est là où les états collectifs se forment, on va le voir tout à l'heure sur l'antiferromagnétisme, mais ça devient aussi quand même sérieux, disons, du point de vue numérique. C'est plus des séries aux températures à quelques ordres. Alors, ce qu'ils font dans cet article, en fait, c'est qu'ils commencent exactement... Alors ça, c'est, j'anticipe un tout petit peu, ça c'est des images de microscopie dans le piège. Je vais vous parler de microscopie dans quelques instants. Mais enfin, vous voyez... Ça marche toujours, ça. On a la résolution à l'échelle du site unique. Et ce qu'ils font, c'est la chose suivante. Donc, ils créent un puits en centre de piège, exactement comme dans la proposition qu'on avait faite. Donc, ils créent un système dans lequel il y a deux particules par site. Alors, vous allez me dire ici, ce que je vois, c'est un disque blanc. Il n'y a pas l'air d'avoir deux particules par site en centre de piège. Alors en fait, si, il y a deux particules par site en centre de piège, et la raison c'est que dans ces techniques de microscopie-là, comme je vais vous l'expliquer tout à l'heure, quand on réalise la fluorescence des atomes pour les voir, eh bien les états doublement occupés collisionnent et en fait, ils apparaissent comme vides. Donc, on a bien le fait qu'il n'y ait rien en centre de piège est un bon signal qu'il y a probablement deux particules par site. Donc, une couronne avec deux particules par site, vous voyez, c'est ce qui est représenté ici. Et puis, ensuite, au lieu de faire ce truc un peu compliqué qui consiste à éliminer les atomes dans les, dans les parties extérieures et puis à remonter les barrières. Ce qu'ils font, c'est quelque chose de beaucoup plus malin, en fait, c'est que ils ont cet état avec deux particules par site, et puis ils dimérisent le réseau, c'est-à-dire ils introduisent un super réseau qui a maintenant un pas 2A, d'accord, qui écarte progressivement les deux sites. Donc il y a un régime intermédiaire dans lequel il y a deux particules dans une sorte de double puits, donc un état avec des singulets de dimères, si vous voulez, des dimères singulets qui ne se parlent pas trop. Et puis quand ils ont obtenu un nouveau super réseau, où les puits ont la même profondeur, mais on a doublé la maille du réseau, eh bien on se trouve avec une particule par site qui est notre isolant de Mott. Alors évidemment tout ça est beaucoup plus simple à dire qu'à faire, il a fallu des années pour arriver à un bon contrôle de ces expériences, plus une série d'astuces que je serais bien incapable de décrire. Mais par comparaison aux simulations numériques, en particulier aux simulations que Shiwe et son équipe ont fait, ça c'est l'estimation des températures atteintes. Donc vous voyez, ça c'est quand même un grand progrès dans le domaine. Et le nombre d'atomes n'est pas gigantesque dans cette expérience. Il est d'ordre 350, quelque chose, dans le centre. On va voir des expériences dans la suite à trois dimensions avec un nombre d'atomes colossal. Donc voilà un petit peu ça, c'est pour vous mettre l'eau à la bouche pour la suite du cours, que vous n'endormiez pas. Alors, j'ai parlé de microscopie, donc je voudrais... donc le premier game changer, si vous voulez, ça a été c'est le refroidissement. La deuxième chose qui est arrivée avant, en fait, c'est la microscopie. Et donc, je voudrais vous parler un petit peu de ça. Donc ça, c'est un article tout à fait pionnier de Wassim Bakker, qui à l'époque, je pense que c'était sa thèse, dans l'équipe de Markus Greiner à Harvard. Donc c'est un article qui est paru en 2009, et je me souviens très bien de quand ce talk a été présenté à St. Feliu, qui est la grande conférence BEC, je pense que c'était en 2008, de mémoire, quelque chose comme ça. Tout le monde était absolument fasciné par ce truc. Donc voilà en gros l'idée. J'anticipe un petit peu. Oui, voilà. Donc l'idée c'est de coupler à la cellule un objectif de microscope, et de faire fluorescer les atomes. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a notre système, alors c'est une mesure qui est une mesure destructive, on a notre système, et puis au moment où on veut observer le système, on augmente la profondeur du réseau, donc ça gèle complètement le système, et puis avec une excitation laser, on fait fluorescer les atomes. Alors quand on fait ça et qu'il y a deux particules par site, elles collisionnent et on ne voit rien. Au moins dans ce setup-là, je crois qu'il y a des expériences dans lesquelles c'est fait différemment, mais en tout cas dans ce setup, les sites doublement occupés ne sont pas visibles, d'où ma remarque de tout à l'heure, et on a donc une résolution à l'échelle du site atomique de l'état du système. Donc c'est comme une sorte de, vous pouvez y penser si vous voulez, comme une sorte de photo instantanée d'une composante de la fonction d'onde du système. Alors ça c'est évidemment assez fascinant, et c'est clair qu'on bénéficie dans ce contexte de l'optique quantique du fait que ces réseaux, ils ont des pas du réseau qui sont de l'ordre du micromètre. Hein. Donc c'est aussi les longueurs d'onde qui sont la longueur d'onde des sondes. Si on pouvait faire des photos de snapshots de la fonction d'onde dans le contexte des électrons dans les solides, où les échelles d'énergie et de distance sont totalement différentes, ça serait très joli. Mais bon, on n'en est pas tout à fait là. Donc voilà un exemple, je crois que c'est tiré de l'article historique, où on voit une image en fluorescence d'atomes avec la résolution à l'échelle d'un site du réseau. Voilà même un petit film où on voit, dans un régime thermique, hein, où les particules bougent entre les sites du réseau par activation thermique essentiellement, dans un régime donc, de haute température, c'était des bosons hein, à l'époque, dans un réseau faiblement profond. Voilà. C'est quand même assez fascinant donc, de voir ces atomes sauter en temps réel. Bien, alors évidemment, il a fallu un certain nombre d'années pour développer ces méthodes pour les fermions. Et ça s'est produit il y a en gros une dizaine d'années dans différents groupes. Donc ça, c'est un article du Max Planck de Munich, dans l'environnement général d'Emmanuel Bloch, Stéphane Cour. Ça, c'est MIT, Martins Verlein. Il y a aussi eu un microscope rapidement dans l'équipe de Joe Taiwesena à Toronto. Ici aussi dans l'équipe d'Emmanuel Bloch avec Guillaume Salomon qui a contribué à cet article, Marcus Greiner à Harvard, également microscope fermionique. Donc voilà, donc depuis une dizaine d'années, on dispose du microscope fermionique. Bon, ça c'est le setup qui est utilisé dans une de ces expériences. Je ne vais pas en parler plus en détail. Et voilà, maintenant, l'isolant de mode fermionique, donc ça c'est un article du groupe de Greiner, l'isolant de mode fermionique, mais maintenant avec de l'imagerie, avec la résolution du site unique. Alors vous voyez, donc c'est l'évolution dont on a parlé déjà beaucoup. Là on est dans un régime où tout est liquide ou métallique, si vous voulez, avec soit un réseau peu profond, soit une valeur de U relativement faible. Et donc, vous voyez qu'on a beaucoup de sites, beaucoup de fluctuations de densité. On augmente vers un réseau beaucoup plus profond. Et là, une densité plus grande. Donc là, on est obligé de créer un état avec plus d'une particule par site, presque deux particules par site au centre. Et c'est pour ça qu'on ne voit rien au centre. Vous voyez. Et ça, ce n'est pas des états vides, c'est des états où il y a deux particules par site. Et puis, on a ces ailes ici. Ne sont pas encore vraiment des plateaux, mais qui deviennent des plateaux ici, où on a une particule par site. Donc là, on est dans le régime de la couronne de Mott dont j'ai parlé précédemment. Et ça, c'est un régime où on a moins de particules, où le réseau est plus profond, où U est plus grand. Et on a exactement une particule par site au centre. Vous voyez, un système qui est assez magnifiquement uniforme, avec un certain nombre de défauts dans le système. Donc voilà, manifestement, une transformation des sondes expérimentales qui permet toutes sortes de mesures. Et on va voir comment, à partir de l'analyse de ces images, on peut reconstituer, par exemple, les fonctions de corrélation densité-densité ou les fonctions de corrélation spin-spin à temps égaux. J'insiste quand même sur ça. Alors, toutes ces avancées techniques et expérimentales ont permis de réaliser le magnétisme à longue portée dans ces systèmes. Et c'est ça que je voudrais, vous montrer maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur l'antiferromagnétisme de modèle de Hubbard ? Donc, on va d'abord parler de trois dimensions, donc réseau cubique, et ensuite de deux dimensions. Du point de vue théorique, je crois que je vais suivre cet ordre, et puis du point de vue expérimental, je vais suivre l'ordre historique, où deux dimensions ont été observées d'abord, puis tout récemment, trois dimensions. Alors, je reviens à la théorie. Donc, vous vous souvenez de la ligne de la température de Néel en fonction de U sur T. Donc maintenant, tout est exprimé en unité du Hopping, dans toute la suite de ces slides. Et donc voilà l'état de l'art numérique, je crois à peu près à la date d'aujourd'hui, pour une détermination précise. Donc maintenant on va parler de choses précises, pour une détermination précise de la température de Néel en fonction de U. Alors, ce que vous voyez ici, c'est la température de Néel en fonction de U, déterminée par toute une série de méthodes numériques différentes. Et ce n'est pas l'objet du cours d'aujourd'hui de vous parler de ces méthodes numériques, mais au cours prochain, j'ai le projet fou d'essayer de vous donner une sorte de survol, un peu high level, mais de certaines d'entre elles. Donc, si tout se passe bien, au cours prochain, je vous parlerai évidemment à tout seigneur, tout honneur de Determinantal QMC, qui doit se cacher quelque part ici, je ne sais pas où, par exemple ici. Je vous parlerai des méthodes d'inclusion quantique ou le champ moyen dynamique et de ses extensions. Donc ici c'est DCA, D-gamma, tout ça c'est un petit peu la même famille. Et je vous parlerai aussi un petit peu de Monte Carlo diagrammatique dans la version déterminantale, donc de CDET, dont vous entendrez beaucoup plus parler dans le mini-symposium de la dernière séance, donc qui sont ces points ici. Ici, il y a, donc on est au demi-remplissage, donc on pourrait aussi parler de Constraint Path Auxiliary Field Monte Carlo, dont Shiwei va nous parler aujourd'hui. Le constraint path, il est fait pour manager le problème du signe moins fermionique, mais ici on est au demi-remplissage, donc c'est un problème sans signe moins fermionique, comme on va le voir au cours prochain. Bref, voyez si toutes ces méthodes numériques, et toutes ces méthodes numériques, on peut dire, au bar d'erreur près, sont quand même en bon accord les unes avec les autres. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en gros, la température DNL, elle atteint un maximum ici à U de l'ordre de 8, U sur T de l'ordre de 8, avec un maximum de l'ordre de T sur la température de l'ordre d'un tiers. Comme on va le voir tout de suite, on s'attend ici à une température donnée L très petite, qui varie en fait exponentiellement avec U sur T, ça on le comprend facilement dans une théorie de champ moyen. Et puis à U grand, on s'attend à ce que la température donnée L soit contrôlée par le super échange, dont je vais parler dans le transparent suivant, donc varie comme 1 sur U, comme T carré sur U, où T est le Hopi. Et ça, c'est le résultat du modèle de Heisenberg, donc la ligne marron ici, c'est le résultat du modèle de Heisenberg en fonction de, vous voyez que ça suit bien le modèle de Heisenberg avec la constante de couplage J de super-échange qu'on attend. Il y a une autre courbe sur ce panneau ici, qui est la courbe ici, qui est manifestement est plus haut que le vrai résultat, qui est l'approximation single-side MFT, dont je parlais aussi un peu la prochaine fois, et dont ces méthodes-là sont des extensions. Voilà, donc ça c'est un article qui a été fait ici dans l'équipe de Michel Ferrero et de Félix Werner par Renaud Gariou, c'était une partie de sa thèse. Voilà, ça c'est un autre article qui compile un certain nombre de résultats et qui montre des résultats des QMC. Alors, je voudrais aussi vous faire apprécier un petit peu l'évolution du numérique au cours des années. Puisque le premier algorithme du QMC, il a été introduit par Blankenbaker, Scalapino et Sugar dans les années 80. Je vais en parler un peu la prochaine fois. Et ça, c'est ici, vous voyez un article de Jorge Hirsch, il y a vraiment longtemps, qui vous montre la température de Néel en fonction de U, ici. Alors vous voyez qu'en fait, sur un petit réseau, 4 au cube. Et donc, vous voyez qu'en fait, ces résultats, ils excèdent largement ça. Vous voyez que le maximum ici, il est à peu près deux fois trop grand par rapport au bon résultat. Et j'ai même trouvé un article de Richard Scaletta, qui est un expert du DQMC, qui améliorait ces résultats. Mais vous voyez que, bon, on est presque à peu près bon, mais on est encore un peu haut, hein, 0,5. Donc, vous voyez que le numérique fait des progrès. Et permet maintenant de converger vers des résultats sûrs. Voilà. Alors, demi-remplissage, c'est quelque chose qui n'est pas si difficile, puisque il n'y a pas de problème de signe moins, mais quand on est en dehors du demi-remplissage, c'est beaucoup plus difficile, on en parlera la prochaine fois. Donc tout ça, c'est pour vous dire qu'on connaît la température de Néel du système en fonction de U. Je vais essayer de vous faire... Alors, pour ceux qui sont... Ça va embêter un certain nombre de gens dans la salle qui connaissent ça très bien. Je vais quand même expliquer un petit peu ces deux régimes. Le régime de couplage faible et le régime de couplage fort. Alors, d'abord, le régime de couplage fort. Donc, dans le régime de couplage fort, ce qui se passe, comme on l'a vu au cours des cours précédents, c'est que les fluctuations de densité sont supprimées. Donc il n'y a plus de fluctuation de densité, donc ça veut dire qu'on doit pouvoir projeter le système sur un système effectif qui ne contient que deux états par cycle, les deux états de moments locaux, up et down. Et quand on fait ça, on peut faire ça par une transformation canonique, on voit qu'on obtient évidemment un modèle qui est à peu près le seul modèle qu'on peut écrire qui soit invariant issu de avec un état, un espace de Hilbert à deux états par cycle, qui est donc... qu'on peut paramétriser par un spin 1,5. Et ce modèle effectif, c'est un modèle de Heisenberg. Et le seul petit calcul qu'on doit faire, c'est quelle est la constante de couplage. Alors là, je l'ai bien appelé JAF, pour ne pas confondre avec la terminologie archaïque de J étant le hopping dans le réseau, dont je ne parlerai plus dans la suite. Donc, JAF, un petit calcul, montre que c'est 4 T carré sur U. Alors oui, 4 T carré sur U, c'est une formule classique de théorie de perturbation second ordre. C'est le carré de l'amplitude de saut divisé par le dénominateur d'énergie. Et vous pouvez le comprendre de la manière suivante, sur un petit problème à deux sites, simplement. Si vous regardez l'état fondamental d'un système à deux sites. Dans la limite où le hopping est nul, eh bien, l'état singulet, qui est représenté symboliquement ici, et l'état triplet, ou plutôt les trois états triplets, sont tous dégénérés, hein, puisque le hopping est zéro. Mais si vous branchez le hopping perturbativement, il va y avoir une levée de dégénérescence. Et pourquoi il y a une levée de dégénérescence? Parce que dans le cas de l'état singulier, il y a un état intermédiaire qui est possible. Vous pouvez faire sauter ce spin sur celui-là. Vous créez une double occupation. Ça coûte U, d'où le dénominateur. Puis vous revenez. Donc il y a un terme en théorie de perturbation deuxième ordre qui couple l'état singulier et un état avec une double occupation sur un site. Et donc ça va abaisser l'énergie de l'état singulier de cette quantité-là. Le 4 vient juste d'un recouvrement de fonction d'onde. Alors que dans l'état triplet, vous pouvez pas, il n'y a pas d'état intermédiaire, donc y a, le hopping ne couple pas à un état intermédiaire, puisqu'évidemment, former un état de spin 1 avec deux particules parallèles sur le même site, c'est interdit par le principe de Pauli. Donc l'état triplet n'est pas abaissé, et donc l'état singulier est le modèle de Heisenberg. Voilà, donc c'est pour ça que dans la limite de grand U, eh bien, on a un modèle de Heisenberg. Alors, on sait, aussi par des méthodes numériques ou des développements d'ondes de spin, quelle est la température de Néel du modèle de Heisenberg. Et en fait, la température de Néel du modèle de Heisenberg, à trois dimensions, elle est en gros presque égale au couplage antiferromagnétique. Le coefficient, ça doit être 0,90 ou 95, si vous voulez, quelque chose comme ça. Si vous faites une théorie de champ moyen du modèle de Heisenberg, vous allez trouver que la température de Néel, c'est la connectivité du réseau fois le couplage antiferromagnétique. Ça va être Z, la connectivité du réseau, fois J. Et sur un réseau cubique, Z, c'est 6. Donc vous voyez que entre la théorie de champ moyen du modèle de Heisenberg et le vrai résultat avec les fluctuations quantiques, il y a quand même un facteur 6 en couplage fort. Donc ça, c'est le régime de couplage fort. Maintenant, on va réviser rapidement le régime de couplage faible. Donc ça, on peut l'aborder simplement par une théorie de champ moyen. Et la théorie de champ moyen, au sens classique du terme, disons au sens Hartree-Fock, si vous voulez, en fait, Hartree seulement, il n'y a pas de terme de Fock dans ce cas-là. Et donc, ce que vous faites ici, c'est juste vous faites un découplage de l'interaction de Hubbard, densité-densité. Vous l'écrivez comme un terme où on a pris les valeurs moyennes indépendamment pour les deux densités. Un terme correctif qui est juste un nombre. Ça, c'est le terme où on a pris les valeurs moyennes indépendamment. Et puis, un terme de fluctuation. Vous voyez que ça, c'est une fluctuation de densité, une autre fluctuation de densité. Donc, ça, c'est une relation exacte. Et la théorie de champ moyen, elle consiste simplement à jeter ce terme-là. Du coup, on a un Hamiltonien quadratique effectif avec une relation d'autocohérence qui peut être une relation d'autocohérence pour la densité locale, donc NE plus N down sur chaque site, ou l'aimantation locale sur chaque site. Il y a un petit peu de l'arsène. Donc, vous pouvez écrire des équations Hartree-Fock, ou Hartree dans ce cas-là, qui peuvent être d'ailleurs complètement non restreintes, c'est-à-dire inhomogènes sur le réseau. On pourrait laisser toutes ces valeurs du paramètre d'ordre de densité et du paramètre d'ordre d'aimantation libres d'un site sur l'autre. Donc ça, c'est quelque chose qui est unrestricted Hartree-Fock, disons, sur le modèle de Hubbard, par exemple à deux dimensions. Et si vous faites ça, vous allez déjà trouver beaucoup de physique intéressante. Par exemple, quand vous dopez le système, vous obtenez des solutions dont on parlera la prochaine fois, des solutions de type stripes, qui sont des défauts linéaires dans l'antiferromagnétisme. Et d'ailleurs, résoudre ces équations Hartree-Fock inhomogènes en dehors du demi-remplissage, c'est loin d'être trivial numériquement. En fait, le paysage d'énergie de ces solutions Hartree-Fock est presque vitreux. Bon, c'est juste une parenthèse. Si je cherche une solution homogène, où tous les NI et tous les MI où il y a au moins une invariance par translation, disons, à définir sur ces paramètres, évidemment c'est beaucoup plus simple, et c'est ce que je vais faire ici. Au demi-remplissage, il n'y a pas de solution inhomogène, tout se passe de manière très simple. Donc ça, ce serait les équations complètement inhomogènes, hein, où j'ai un Hamiltonien effectif quadratique pour les spin-up, pour les spin-down, avec un potentiel sur chaque site qui peut dépendre du site, qui dépend du site et de la direction du spin, et puis une relation de self-consistance, qui vient juste de ça, qui me dit que le potentiel effectif pour le spin-up sur le site I, c'est U fois la densité sur le même site de spin-down, calculée dans cet Hamiltonien effectif quadratique. Donc il y a une relation epsilon I up comme U ni moins mi sur 2, et puis epsilon I down, U ni plus mi sur 2. Ça, c'est les équations, disons, inhomogènes. Maintenant, si je les spécialise au cas homogène, en cherchant une solution antiferromagnétique, puisque ici on est sur un réseau bipartite cubique, donc c'est en fait la solution qui va être favorisée. Donc maintenant j'insère dans ces équations le fait que n est égal à 1 sur tous les sites, ou n up égale n down égale 1,5, et puis que l'aimantation locale c'est moins 1 puissance i fois l'aimantation alternée. À ce moment-là, mon potentiel local devient juste un potentiel alterné, je peux tout résoudre, et j'obtiens deux branches d'excitation qui ont la forme ici, qui est absolument réminiscente des équations BCS, avec un gap, plus exactement ici, la moitié du gap, qui vaut U sur 2 fois l'aimantation staggered, et puis une équation de gap qui est écrite ici, où D de epsilon, c'est la densité d'état du réseau du modèle de tight binding sans interaction. J'ai écrit ça à température finie, bêta égale 1 sur KT, c'est donc l'équation de gap que vous obtenez, juste quand vous insérez tout ça dans ces équations. Et vous voyez que si vous regardez un petit peu cette équation de gap, eh bien, il y a toujours une solution à température nulle, quelle que soit la valeur de U. Alors ça, c'est parce que cette tangente hyperbolique devient 1 dans la limite où bêta tend vers l'infini. Et donc, vous voyez qu'ici, il y a une singularité de l'intégrale quand delta tend vers 0. Cette intégrale diverge logarithmiquement, comme D de epsilon sur epsilon, donc le 1 sur epsilon fait une divergence logarithmique, et c'est pour ça qu'il y a toujours une solution de cette équation, un delta fini, quel que soit U. Ça, c'est une particularité du fait qu'on est sur un réseau bipartite, avec ce qu'on appelle emboîtement parfait au demi-remplissage. Et pour ceux et celles qui ont déjà vu ça, cette équation est évidemment identique à l'équation de gap BCS, et la raison, on l'a vu la dernière fois, au cours précédent, c'est qu'il y a une symétrie parfaite entre U et moins U au demi-remplissage, donc c'est pas étonnant qu'on trouve les équations BCS. Donc on trouve exactement les équations BCS quand U tend vers 0, à cause de cette divergence en 1 sur epsilon, delta dépend de manière singulière de l'interaction de la constante de couplage, U fois la densité d'état au niveau de Fermi, avec cette singularité essentielle, exponentielle de moins 1 sur U. Voilà, donc tout ça est complètement identique à BCS, à cause de cette symétrie U donne moins U, dont on a parlé la dernière fois. Donc vous voyez que quand U tend vers 0, cette solution est probablement asymptotiquement raisonnable, elle vous dit que la température donnée, elle, devient exponentiellement inobservable, en gros, toute petite, de l'ordre exponentiel moins 1 sur U. Et au-dessus de cette température donnée, elle, dans ces régimes, le système est en gros un liquide de Fermi, avec des subtilités liées à l'emboîtement, mais en gros, c'est un liquide. Alors que dans le régime de Heisenberg, le régime opposé, où U est très grand, le système au-dessus de la température donnée, elle, n'est pas du tout un liquide de Fermi. C'est un liquide dans lequel il y a des moments locaux et où les fluctuations de densité sont bloquées, comme on l'a vu de manière répétée. Et dans le langage U négatif, ça correspond au fait que dans le régime de couplage faible, on a un métal, un liquide de Fermi au-dessus de la transition BCS. Dans le régime de couplage fort, on a un liquide bizarre qui est en gros un liquide de boson, dans lequel on a des paires préformées. Voilà, donc tout ça, je considère que c'est un peu probablement des rappels, mais probablement fait d'une manière tel que même ceux qui n'ont jamais vu ça comprennent à peu près de quoi il s'agit. Et ça justifie la forme donc, de cette température de NLA en fonction de U. Donc tout ça est à peu près contrôlé en couplage faible, en couplage fort, mais évidemment au milieu on a besoin de calculs numériques dans ce régime intermédiaire pour donner des résultats précis et les voilà. Alors, ça c'est trois dimensions, quand il y a vraiment un ordre à longue portée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à deux dimensions ? Alors, pourquoi je vous parle de deux dimensions maintenant ? Parce qu'en fait, c'est là où l'antiferromagnétique à longue portée a d'abord été vue expérimentalement. Donc, il faut que je vous parle d'abord un peu de deux dimensions. On va revenir à trois dimensions dans la suite. C'est peut-être pas très logique de faire comme ça, mais j'ai suivi l'ordre historique des découvertes expérimentales. Comment ça se passe à trois dimensions ? Alors, à trois dimensions, la situation est différente parce que les fluctuations quantiques interdisent la formation d'un vrai ordre à longue portée à température finie pour une symétrie continue. Donc, la symétrie de spin, c'est une symétrie SU2, une symétrie continue. Ça ne serait pas le cas de la charge, on verra ça la prochaine fois. La charge, elle peut s'ordonner à température finie, à deux dimensions. Et c'est encore un problème assez ouvert dans la physique des stripes de comprendre l'ordre de la charge à température finie. Mais ici, on est au demi-remplissage, il n'y a pas de stripe. Donc la seule chose qui peut s'ordonner vraiment, c'est le spin à température. À température nulle, la charge aussi, mais elle est uniforme. Donc il n'y a pas d'ordre à longue portée. Et typique d'une dimension, ce qu'on appelle la dimension critique inférieure, la longueur de corrélation va croître exponentiellement avec quand on refroidit. Donc en fait, on peut montrer, ça c'est des vieux travaux de Halperin, Philippe Chakravarty, David Nelson, qui utilisent un modèle sigma non linéaire pour décrire les états de basse énergie du modèle de Heisenberg ou du modèle de Hubbard, que la longueur de corrélation, c'est quelque chose qui va croître exponentiellement quand t tend vers zéro, avec un coefficient caractéristique ici qui est la rigidité de spin. Pour les amateurs de théorie des champs, ça va être le coefficient du terme en gradient dans le modèle sigma non linéaire. Pour ceux qui veulent, ou celles qui veulent voir des détails sur ce genre de choses, j'en ai parlé beaucoup plus en détail dans mon cours de 2020 sur le modèle de Hubbard, où j'avais parlé de la description des états de basse énergie en termes du modèle sigma non linéaire. Donc voilà, donc vous voyez que certes, on n'a pas de l'ordre à longue portée, mais on a une longueur de corrélation qui va diverger exponentiellement quand on refroidit le système. Donc il y a un moment où cette longueur de corrélation va devenir plus grande que la taille du système. Et on peut dire à ce moment-là qu'on a établi l'ordre à longue portée dans le système. Et souvenez-vous que du point de vue théorique, il n'y a pas vraiment d'ordre à longue portée à température finie. Voilà. Alors, ça, c'est, disons, vu du point de vue de l'ordre qui se développe dans le système. Mais si on est... Si on veut comprendre un peu plus la physique du problème, on s'aperçoit qu'en fait, dans ce cas bidimensionnel, il y a des crossovers, pas une mise en ordre, mais des crossovers qui sont vraiment intéressants et qui sont plus riches que juste cette divergence exponentielle à la longueur de corrélation. Alors ça, c'est un dessin schématique, mais qui résume aussi des calculs numériques, de ce qui se passe, des différents crossovers qui se passent dans ce système en couplage faible. Donc dans le régime de U relativement petit. Et c'est tiré d'un article qui commence à ressembler à un article de physique des particules par le nombre d'auteurs qu'on a publié il y a quelques années, avec en particulier l'ensemble du projet a été beaucoup guidé par Thomas Schaeffer qui était postdoc avec Michel et moi-même ici. Et qui va donner un séminaire lors de la dernière séance de ce cours. Et l'idée de cet article, c'était de mettre ensemble à peu près toutes les méthodes numériques existantes permettant d'étudier ce problème, les comparer entre elles et d'établir un certain nombre de résultats au-delà du doute possible. Et en même temps, il y a pas mal de jolies physiques, puisqu'on a identifié de manière assez précise les différents crossovers du système en fonction de la température. Je vous les décris rapidement. Donc on est dans ce régime de couplage faible, hein, où le système est liquide à température finie, au moins jusqu'à une certaine température. Et donc, en fonction de la température, on avait distingué 5 régimes de crossover. Je voulais décrire un peu rapidement. Je ne vais pas en parler dans la suite, ce n'est pas quelque chose qui a été directement observé dans les atomes froids. À haute température, on s'attend donc à ce qu'il y ait un régime de haute température qui soit une sorte de soupe incohérente des différents états possibles par site. Et puis il y a un moment où on va atteindre en gros la température de dégénérescence de ce gaz de quasi-particules. Donc j'ai dit qu'on avait un liquide de Fermi, il y a une température de dégénérescence caractéristique, et en gros quand les quasi-particules du système commencent à se former et ont un temps de vie suffisamment long. Et en fait... Dans ce cas du modèle de Hubbard bidimensionnel sur un réseau carré, cette température de caractéristique, elle dépend de où on est dans la zone de Brillouin. Si on est près de la diagonale, donc je vais faire un petit dessin ici. Donc ça, c'est ma zone de Brillouin, qui va donc de moins pi sur A à pi sur A dans les deux directions. Et puis ça, c'est la surface de Fermi du système exactement demi-rempli, qui coïncide aussi avec la zone de Brillouin du système antiferromagnétique, qui est donc deux fois plus petite. Et si on regarde cette température donnée, de cette température caractéristique où apparaissent les quasi-particules pour cette région de la surface de Fermi, eh bien on s'aperçoit que cette température est un petit peu plus haute. Donc on commence à former les quasi-particules ici à cette température-là. Alors vous voyez que c'est une température qui n'est pas très très basse. On en a donné ici une estimation en fonction de différentes méthodes numériques. Enfin, elles coïncident toutes entre elles. C'est de l'ordre du Hopping sur 2 à peu près. Et puis, pour U égale 2. Et puis, ici, en fait, il y a une singularité de Van Hove dans la densité d'état. Et ça, ça fait que cette température où apparaissent les quasi-particules est plus basse. Donc vous voyez, elle est plus basse, d'environ, je ne sais pas, 25%. Donc il y a une différenciation. Ici, c'est un système qui va être cohérent dans ces régions, mais incohérent dans ces régions. Et puis là, on atteint vraiment le régime liquide où tout, on a des quasi-particules cohérentes sur toute la surface de Fermi. Et puis quand on continue à refroidir, à un moment, la longueur de corrélation magnétique va nous exploser dans la figure et on commence à ouvrir un gap, ou un pseudo-gap plus exactement, dans le système. Et là aussi, ça apparaît de manière différenciée selon qu'on est ici ou là. Et là, ça apparaît d'abord aux antineux, ici, près de la singularité de Van Hove, et ensuite dans les régions diagonales. Donc ça, c'est ces deux crossovers ici. Dans ce régime ici, il ne reste pratiquement plus de fluctuations de densité. Le système est essentiellement incompressible et il ne reste plus que des degrés de liberté de spin qui se mettent à croître avec une longueur de corrélation qui croît exponentiellement, comme on vient de le voir. Et puis finalement, à température nulle, on ordonne le système à longue portée puisqu'on est à température nulle. Hermine Wagner nous autorise les fluctuations quantiques nous autorisent à nous ordonner à température strictement nulle. Donc ça, disons, c'est un peu une digression par rapport au sujet des atomes froids, mais c'est pour vous montrer qu'il y a une série de crossovers intéressants et que souvent, dans ce domaine des systèmes de fermions fortement corrélés, il ne faut pas se contenter de chercher les phases ordonnées et les transitions de phase, mais il faut aussi s'intéresser à la physique du système au sein des différentes phases et aux différents crossovers. D'une part, parce qu'un système incohérent, un système qui est partiellement cohérent, un système liquide, ce n'est pas la même chose, même si du point de vue de la symétrie, c'est la même chose. Et d'autre part, parce que c'est ça qu'on voit dans les expériences, et si on veut comprendre les expériences, en particulier dans ce cas-là, en physique de la matière condensée, il vaut mieux comprendre ces crossovers. Voilà. Et vous voyez d'ailleurs qu'une chose qu'on avait découvert dans cet article, qui n'est pas forcément encore complètement comprise, c'est que dans le régime de très basse température, ici, qui est cette température violette-là, qui n'est pas si facile à atteindre numériquement, d'ailleurs, au moins pour ce couplage très faible, on commence à voir, en fait, il y a quelques points supplémentaires, on commence à voir ce régime, c'est un plot log de xi, la longueur de corrélation en fonction d'un sur t. On commence à voir le régime exponentiel du modèle sigma, mais en fait, même dans le régime liquide, la longueur de corrélation magnétique varie exponentiellement en fonction de la 1 sur t, mais avec une loi qui semble être différente de celle du modèle sigma de spin pur. Bon, alors, d'autres calculs numériques, aussi produits par Michel Ferrero et collaborateurs, en utilisant les méthodes de Monte Carlo diagrammatique, permettent de contrôler ce problème. Donc ici, vous avez... on peut se focaliser uniquement sur le demi-remplissage, puisque c'est ça dont je parle aujourd'hui. La fois prochaine, on va parler du système avec des trous, du système dopé. Donc voilà, par des calculs de Monte Carlo diagrammatique, des calculs de la longueur de corrélation en fonction de U. Donc ça, c'est le facteur de structure au vecteur d'onde où le système s'ordonne. Ça, c'est la longueur de corrélation correspondante. Alors, vous voyez que, en gros, ça, c'est proportionnel à xi carré, à peu près. Donc, vous voyez qu'en fonction de U, il y a un maximum de cette longueur de corrélation quand on fixe la température. ce qui est normal puisque, en gros, l'évolution de cette longueur de corrélation, elle est réminiscente de l'évolution de la température d'NEL, si vous voulez, qu'on aurait si le système s'ordonnait. Et donc, il y a un maximum qui devient très grand ici. Il y a un régime de couplage intermédiaire où, à température donnée, la longueur de corrélation est très grande. Voilà. Ici, vous avez le comportement de la longueur de corrélation en fonction de la température pour différentes valeurs de U, mais ces courbes-là sont pour un système en dehors du demi-remplissage. Donc, je reviendrai sur ces calculs Monte-Carlo diagrammatiques lors du prochain cours. Alors, donc ça, c'est un petit peu la théorie pour vous situer un peu le paysage et vous montrer qu'au moins au demi-remplissage, on a un bon contrôle précis du point de vue numérique. Et maintenant, on va voir les réalisations expérimentales. Alors, le premier article qui a clairement montré l'établissement d'un ordre antiferromagnétique à longue portée, c'est cet article du groupe de Markus Greiner en 2017. Mais évidemment, il y avait eu beaucoup d'études du magnétisme avant, dans les années précédentes. En particulier, il y a des très jolis articles du groupe d'Esslinger et du groupe de Randy Hewlett, qui commençaient à avoir des corrélations magnétiques, disons, de portée significative. Je vais me focaliser néanmoins sur cet article-là. Alors ça, c'est deux dimensions, donc on est à température finie, on n'a pas strictement parlé d'ordre à longue portée, mais ce qu'ils ont montré dans cet article, c'est qu'on pouvait atteindre un régime où la longueur de corrélation était plus grande que la taille du système expérimental, et donc en pratique on a un système qui est ordonné à longue portée. Donc voilà le setup expérimental. Donc vous voyez que déjà à ce moment-là ils avaient cette histoire de piège en créant un puits au milieu. Donc ça c'est pour aller vers des systèmes préparés, des systèmes avec un atome par site et aussi refroidir, on l'a vu tout à l'heure, et puis coupler un système de microscopie. Alors, une image typique de microscopie, ça va se présenter comme ça. Ensuite, on peut faire de l'analyse d'image. Donc, ça, c'est la vraie image. Ça, c'est l'analyse d'image. Et puis, dans cette expérience, ils étaient capables, par des transitions appropriées, d'enlever tous les spins d'une espèce donnée. Donc, on a une photo avec tout le monde. Et puis, on peut enlever les atomes qui ont un spin-up ou enlever les atomes qui ont un spin-down. Et donc, on peut, comme ça, faire une carte de l'ordre magnétique. Et donc, vous voyez qu'il commence à se former ici un ordre alterné, up-down, up-down, up-down. Et on peut faire ça de manière... on peut faire une analyse plus quantitative de ces images. À partir de ces images de microscopie, on peut tout simplement mesurer, calculer la fonction de corrélation spin-spin. Alors j'insiste, c'est la fonction de corrélation à temps égaux. Je vais y revenir dans un instant. Et l'évolution de la fonction de corrélation et puis de la longueur de corrélation en fonction de la température. Alors comment est-ce que la température est estimée dans ces expériences? Elle est estimée par comparaison au calcul numérique. Il n'y a pas de thermométrie directe dans le réseau, il y a différentes propositions, mais le problème c'est que dans le piège, on a une capacité de faire de la thermométrie en faisant du temps de vol. On coupe le piège, on laisse le nuage s'expandre, et puis on mesure les queues de distribution, on les fit par une distribution de Boltzmann, et on obtient une température. Dans le réseau, c'est difficile de faire ça, on a trop de collisions dans l'état final, c'est difficile de faire de la thermométrie directe. Il y a différentes propositions, on avait fait nous une proposition en utilisant la spectroscopie Raman dans le réseau, mais c'est difficile de faire de la thermométrie directe dans le réseau. Et jusqu'à maintenant, la plupart des thermométries sont faites par comparaison au calcul numérique. Alors, ce que vous avez ici, c'est une mesure de la longueur de corrélation en fonction de la température, donc estimée dans le système, comme je viens de le dire. Et vous voyez cette belle loi exponentielle ici. Et dans cette expérience, donc, qui date maintenant d'il y a 7-8 ans, dans cette expérience, les températures les plus basses atteintes étaient de l'ordre de 0,25. Et on vient de voir que maintenant, les développements récents dans ce même groupe, c'est des températures plus basses que 0,1. Donc il y a encore eu des progrès. Voilà, donc ça c'est le développement des corrélations antiferromagnétiques quand on refroidit le système. Et puis la longueur de corrélation, ça doit être l'aimantation staggered estimée aussi en fonction du refroidissement. Et ça, c'est les images de Fourier de ces fonctions de corrélation. Vous voyez, à haute température, il n'y a rien du tout. Et puis quand vous refroidissez, il apparaît à pi sur a, pi sur a, qui est le vecteur d'onde correspondant à la modulation moins 1 puissance i de l'antiferromagnétique. Il apparaît un pic central, qui est donc le pic du facteur de structure au vecteur d'ordre. Alors, j'insiste quand même sur le fait que ces expériences, elles mesurent la fonction de corrélation à temps égaux. Et la fonction de corrélation à temps égaux, ce n'est pas exactement la réponse à un champ appliqué. En effet, si vous appliquez une perturbation, donc ici j'ai introduit je fais juste un transparent où je rappelle un peu des choses de réponse linéaire en physique du problème à n-corps. J'ai essayé de mettre sur ce slide les équations essentielles. Donc vous prenez un opérateur O, vous pouvez définir la fonction de corrélation, je l'ai écrit ici à temps égaux, mais on pourrait regarder la fonction de corrélation dépendant de la position et du temps, donc O de RT, O de 0, 0, si vous voulez. Et vous voyez que si on applique une perturbation système sous la forme d'un champ qui dépend de la position et du temps qui couple à cet opérateur O, et si vous faites la réponse linéaire, eh bien, comme on le voit ici, le changement de la valeur moyenne de l'opérateur O, elle va faire intervenir une intégrale sur l'espace et une intégrale sur le temps de la fonction de réponse RT, R'T'. Cette fonction de réponse, en réponse linéaire, on peut montrer, c'est un commutateur de ces deux opérateurs à temps et à position différentes. Donc vous voyez que la réponse à une perturbation statique, qui serait une perturbation à un certain vecteur d'onde qui ne dépendrait pas du temps, eh bien, c'est l'intégrale sur le temps de cette fonction de corrélation. Ce n'est pas la fonction de corrélation à temps égaux. Autrement dit, c'est l'intégrale sur le temps, ou autrement dit, c'est la fonction de réponse à fréquence nulle, la fonction de réponse statique. Voilà, donc vous pourriez dire, ah ben c'est embêtant parce qu'on mesure la fonction de corrélation à temps égaux, qu'est-ce qui me prouve que la longueur de corrélation qu'on va déduire de cette chose a le même comportement que la longueur de corrélation de la vraie fonction de réponse. Alors, néanmoins, on peut être assez rassuré par le petit argument suivant. J'ai écrit ici une expression de la fonction de corrélation ou de la transformée de Fourier qui est le facteur de structure, en fonction du vecteur d'onde et de la fréquence, j'ai écrit ici sur l'axe des fréquences, excusez-moi, il y a un i qui manque ici, sur l'axe des fréquences complexes de Matsubara, c'est i fois n de pi t, fréquence bosonique, parce que c'est un opérateur bosonique. Et donc j'ai écrit ici une formule qui est en gros l'expression de champ moyen, donc dans l'expression qu'on obtiendrait aussi si on avait, par exemple, un modèle sigma non linéaire traité en champ moyen pour la fonction de réponse spin-spin. Donc cette fonction de réponse, cette forme on l'appelle aussi quelquefois Ornstein-Zernike. Donc c'est 1 sur Q2 plus Xi moins 2, où Xi est la longueur de corrélation, plus un terme qui vient de la dynamique. Et comme je l'ai dit, en principe, il faut. Donc vous voyez, cette longueur de corrélation, elle est définie par référence à nu n égale 0. Si vous voulez voir la longueur de corrélation, il faut vous placer au vecteur d'onde d'ordre, donc ça va être 0, et puis il faut faire nu n égale 0. Donc ça, effectivement, dans ce cas-là, le facteur de structure que vous mesurez va être proportionnel à xi carré. C'est une estimation de champ moyen, en fait, il y a un exposant état là-dedans, mais ce n'est pas très grave pour cette discussion. Alors que si vous mesurez la fonction de réponse instantanée, donc à temps égaux, ça revient à sommer sur les fréquences, donc vous faites en fait cette somme. Mais si vous regardez cette somme, et en particulier si vous les regardez au vecteur où le système s'ordonne, c'est-à-dire quand ça c'est 0, bien vous voyez qu'en fait le seul terme divergent dans cette affaire, c'est le terme de fréquence de Matsubara 0. Donc je peux réécrire cette somme comme t sur q2 plus xi moins 2, plus toutes les contributions de n différentes 0, qui vont être protégées de la divergence par le fait que ce terme est fini. Donc en fait, effectivement, quand vous regardez, quand vous extrayez une longueur de corrélation à suffisamment basse température à partir de la fonction à temps égaux, vous avez une description correcte de l'ordre qui se forme dans le système. Voilà, donc voilà un argument qui devrait vous rassurer sur le fait qu'on regarde la fonction de corrélation éthérique. Alors il y a d'autres manières que la microscopie pour mesurer le facteur de structure magnétique. On peut aussi faire quelque chose qui est en fait très analogue de ce qu'on ferait dans un solide par diffusion de neutrons. Ou, si on veut, le facteur de structure de densité par diffusion de rayons X. Alors pourquoi on fait des rayons X dans les solides ? Ben, parce que les longueurs d'onde des rayons X sont comparables à la maille du réseau, de l'ordre de quelques angstroms. Ici, on n'a pas besoin de faire ça. Ce serait peut-être un peu compliqué de faire des rayons X. Et on n'a pas besoin de faire ça puisque les mailles du réseau sont de l'ordre du micromètre. Donc on peut faire tout simplement de la diffusion de la lumière. Et donc c'est ce qu'on appelle diffusion de Bragg. Et si on fait ça avec de la lumière polarisée, en faisant un peu d'optique quantique, que je n'ai pas l'intention de vous faire dans ce cours, on peut voir qu'avec de la lumière polarisée, on peut coupler avec des constantes de couplage différentes à la densité à la densité locale et à la densité de spin locale. Alors pour ceux qui veulent les détails là-dessus, il y a un joli article théorique de Carzotto qui explique tout ça assez bien. Il y a aussi l'article de Hart dont j'ai parlé tout à l'heure qui est ici, dans celui-là ici, cet article de Hart et al. Dans le groupe de Randy Hewlett, qui mesurait le facteur de structure par diffusion de Bragg. Donc voilà, c'est juste pour vous dire qu'on peut faire de la diffusion de Bragg aussi. On n'est pas obligé de mesurer ça par microscopie à temps égaux. Et si on fait de la diffusion de Bragg inélastique, donc en prenant en compte avec deux lasers et en prenant en compte la différence des fréquences, on peut atteindre aussi des informations sur le comportement en fréquence du facteur de structure, même si j'ai l'impression que ça n'a pas été tellement étudié dans le domaine. Donc ce serait l'analogue de la diffusion de neutrons, si vous voulez, en gros. Voilà, alors maintenant je vais, j'espère vous avoir convaincu de la beauté de ces expériences à deux dimensions, et maintenant dans le temps qui me reste, je vais revenir à trois dimensions, et vous parler d'expériences très récentes à trois dimensions. Alors, à trois dimensions, donc je l'ai mentionné tout à l'heure, il y avait eu ce premier article de Randy Hewlett et dans l'équipe de Randy Hewlett en 2015, qui commençait à observer, on va dire, des corrélations antiferromagnétiques. Ça, c'est un graphe qui montre le facteur de structure au vecteur d'onde antiferromagnétique en fonction de U, je crois, oui. Et vous voyez que les facteurs de structure maximum pour les températures les plus froides qu'ils réalisaient, ils étaient dans l'ordre de 2 ou 3. Donc ce n'est pas des facteurs de structure gigantesques. Ça commençait, disons, à indiquer des corrélations magnétiques. Dans cet article-ci, qui est tout récent, l'année dernière, d'une équipe, assez grosse équipe chinoise, qui fait des choses absolument remarquables avec des nombres d'atomes colossaux. Donc dans cet article, il y a presque 1 million de sites dans le réseau, 800 000 sites. Ils ont atteint, pour l'antiferromagnétique à trois dimensions, un facteur de structure qui est de l'ordre de 120. Donc on peut dire qu'ils ont vraiment réalisé l'antiferromagnétique à longue portée à trois dimensions, et vous allez voir qu'ils sont même capables d'identifier le comportement critique à travers la température de Néel. Alors, il y a plein de raffinements techniques dans cette expérience. C'est vraiment des expériences très, très spectaculaires. Je crois d'ailleurs que Yu Haoshen a été à Paris un moment. Je ne suis pas vraiment capable de vous parler des détails expérimentaux. Mais une des choses qu'il réalise, c'est un système extrêmement homogène en centre de la cellule, ce qu'ils appellent un flat top lattice, et également un piège plat, et puis des techniques d'imagerie qui, dans ce cas-là, sont des techniques de diffusion de Bragg. Hein, donc, c'est pour ça que je les ai mentionnées avant. Donc voilà l'imagerie de leur piège, en fait. Et ici, vous avez l'imagerie d'un profil de densité. Et donc, vous voyez un profil de densité extrêmement plat en centre du système. Alors, ils mesurent le facteur de structure. Ça, c'est un peu une vue d'artiste de leur trajectoire en fonction de U. Et donc, ça, c'est le facteur de structure en fonction de U. On a vu tout à l'heure qu'il y avait un maximum, par exemple, de la longueur de corrélation du facteur de structure en fonction de U, autour de 8. Et donc, effectivement, c'est là où ils trouvent le maximum. Et ils peuvent étudier le comportement critique de ce système. Alors, ici, c'est le comportement critique du facteur de structure dans un plot log-log en fonction de U sur U critique. Donc, on traverse la frontière critique de cette manière-là et puis on la retraverse ici. Hein, c'est les deux zones grises ici. On traverse là pour U autour de 8 et U autour de 16. Et ici, c'est le comportement critique au voisinage de ces deux valeurs, ici autour de 8, ici autour de 16, qui sont représentées en log-log, et vous voyez qu'il y a un régime linéaire dans lequel, en log-log, qui a l'air de bien indiquer un comportement critique du facteur de structure. Alors, quel est ce comportement critique que vous attendez? Alors la température atteinte, disons, c'est dans le piège, avant d'avoir branché le réseau, ils atteignent une température qu'on peut estimer, hein, T sur TF, par temps de vol, par exemple, qui est de l'ordre de 0,2, KB par particule et par adiabaticité, si on suppose la diabaticité, ce qui n'est pas du tout évident, mais si on suppose l'évolution adiabatique lors de branchement du réseau, ça correspondrait à une température de l'ordre de 0,22 fois le hopping. Et on a vu que le maximum de la température de Néel à U égale 8, autour d'U égale 8, c'est 0,33. Donc on est en dessous, d'après ces estimations. Alors, quel est le comportement critique attendu? Alors, je reviens à mon facteur de structure ou la fonction de corrélation. Dans un système près du point critique, ça c'est de la mécastate, disons, banale, on a une fonction de corrélation qui est donnée par une fonction d'échelle de R sur Xi, où Xi est la longueur de corrélation, avec une loi de puissance, qui est celle au point critique, en 1 sur R puissance D moins 2 plus eta. Et la longueur de corrélation Xi a trois dimensions, c'est différent à 2D, comme on l'a vu tout à l'heure, à trois dimensions, elle va diverger à TC ou à UC comme T moins TC, puissance moins nu. Donc les deux exposants indépendants, c'est eta et nu, tous les autres s'en déduisent par relation d'échelle. Donc si je prends la transformée de Fourier, ça veut dire que le facteur de structure se comporte comme xi puissance 2 moins eta, une fonction d'échelle de qxi. Si je suis au point critique, cette fonction d'échelle de qxi, soit que vous le voyez comme xi infini ou q tend vers 0, cet objet ici va être une constante. Et donc le facteur de structure va diverger comme xi puissance 2 moins eta. Donc tout à l'heure, j'avais écrit la fonction de corrélation en champ moyen. Le facteur de structure divergeait comme xi carré. Et le fait que le champ moyen ne soit pas exact introduit simplement l'exposant eta. Donc ce n'est pas xi carré, c'est xi puissance 2 moins eta. Donc on s'attend à un facteur de structure qui diverge comme xi puissance 2 moins eta. Si je traverse la frontière critique, par exemple, en fonction de U ou en fonction de la température, c'est le même comportement critique. J'ai appelé cette variable générique X qui peut être U ou qui peut être la température. Donc vous voyez que ça va être comme xi puissance 2 moins eta, ce qui veut dire X moins X critique puissance moins nu 2 moins eta. Et il y a une relation d'échelle qui relie l'exposant gamma de la susceptibilité à nu et eta, relation classique en mécastate, qui est que gamma vaut nu de moins eta. Donc au final, le facteur de structure diverge comme x moins x critique puissance moins gamma. Et pour le modèle de Heisenberg 3D, on sait par des calculs numériques que gamma vaut 1,396 et quelques. Voilà. Et donc ça, c'est un ajustement des données par ce 1,396. Et donc cet article dit qu'ils ont non seulement atteint la transition de phase antiferromagnétique, mais ils sont aussi capables de mesurer l'exposant critique. Ils font la même chose en fonction de l'entropie. Et je ne vais pas entrer dans les détails, mais on peut se poser des questions sur la manière dont le scaling en fonction de l'entropie est vraiment fait dans cet article. Mais Voilà, c'est aussi, on voit en tout cas clairement un comportement critique du système en fonction de l'entropie. Alors, est-ce que tout ça est cohérent avec les calculs numériques? Et la réponse est oui. Donc ça, c'est des calculs numériques qui... je n'ai pas mis la référence, mais c'est un article de Matthias Treuer, Fuchs et Coworkers, Genia Kozik aussi, je crois, qui représente l'entropie du modèle de Hubbard demi-rempli en fonction de la température normalisée pour différentes valeurs de U. Donc ici, on a U égale 4, 5, 6, 8. Et vous voyez ici, alors ça, cet article-là, c'est des calculs de Monte Carlo diagrammatique. Vous voyez ici l'évolution de la température en fonction de l'entropie totale par site en fonction de la température. Et puis les courbes en trait pointillé, c'est des séries haute température. Donc ça, ça vous illustre aussi le fait que c'est des séries de température à différents ordres. Donc vous voyez que ce que je disais tout à l'heure, c'est que les séries haute température, elles sont essentiellement plus fiables pour des températures plus petites que le Hopping. Elles sont quand même assez limitées en applicabilité. Elles étaient très utiles dans une première phase du sujet, mais maintenant, il faut autre chose. Donc les calculs de Monte Carlo diagrammatique permettent de déterminer cette entropie en fonction de la température, de déterminer également, avec une certaine approximation, cet article est très soigneux, il y a plein de barres d'erreur, la température de Néel. Et vous voyez qu'effectivement, les entropies par site, c'est des entropies à la température de Néel qui sont de l'ordre de 0,2-0,3, ce qui correspond bien à ce qu'on a vu dans le transparent précédent. Alors, pour finir ce cours, je vais encore prendre peut-être 5 ou 8 minutes. Je voudrais vous parler d'un effet amusant qui est associé à ces phénomènes anthropiques dans ces systèmes, qui est l'effet Pomeranchuk et son observation dans les gaz d'atomes froids. Donc, qu'est-ce que c'est que l'effet Pomeranchuk? Donc, l'effet Pomeranchuk, c'est le fait que... Donc, c'est quelque chose qui a été découvert dans les explorations du diagramme de phase de l'hélium 3 par Pomeranchuk il y a fort longtemps. C'est le fait suivant. L'hélium 3, donc revenons au liquide de Fermi canonique qui a motivé le développement de la théorie des liquides de Fermi par Landau, l'hélium 3, qui est en gros le seul liquide qui, à part les systèmes d'atomes froids, le seul liquide qui reste liquide jusqu'à température très faible. Et donc le diagramme de phase de l'hélium 3 en fonction de la pression et de la température, vous voyez qu'il a cette particularité remarquable que en fait on peut partir du système liquide ici, la phase jaune, c'est une échelle log ici, attention hein. Donc ici vous êtes quand même autour du millik. Vous partez du liquide de Fermi autour du millik à une certaine pression et vous chauffez le système, et quand vous chauffez le système, il devient solide. Ça, c'est quand même un phénomène remarquable, qui est qu'on peut solidifier un système en le chauffant. Alors, pourquoi ça se passe? Eh bien, tout est dans l'entropie de spin. C'est parce qu'en fait, si vous êtes à très basse température, l'entropie ne va être pas très importante. Et donc, ce qui compte, c'est de minimiser l'énergie. Dans ce régime, on n'a pas encore atteint la pression de solidification. Donc, c'est l'état liquide qui est favorisé du point de vue énergétique. Mais quand vous chauffez le système, le terme d'entropie, U-TE-TS, va devenir plus important. Et donc, vous aurez intérêt à gagner en entropie pour baisser l'énergie libre. Or, comme les fermions, comme hélium 3 a un spin 1,5, si vous localisez plus les particules, vous allez pouvoir libérer cette entropie de fluctuation de spin. Et on va donc plutôt favoriser l'état solide, qui va avoir une entropie de l'ordre de log 2 par site, comme on a vu plusieurs fois dans ce cours, et donc solidifier le système en chauffant. Alors, la meilleure preuve que ça, c'est un effet de spin, c'est que si vous faites la même chose sur l'hélium 4, qui est un boson, il n'y a pas de minimum de Pomeranchuk. Vous ne pouvez pas le solidifier en chauffant. Et évidemment, cet argument ne marche que si les échanges magnétiques les couplages d'échanges magnétiques entre spin est faible. Parce que sinon, vous ne pouvez pas gagner l'entropie log 2. Et effectivement, c'est le cas. puisque les phases ordonnées magnétiquement de système, les échanges magnétiques dans ce liquide sont très très petits. Donc il y a aussi des phases solides magnétiques, mais à des températures plus faibles, et on est dans un régime où on libère effectivement cette entropie. Donc ça, c'est le minimum de Pomerantchouk, la solidification par chauffage. Alors en fait, ça se produit aussi dans le modèle de Hubbard, cette affaire-là. Et c'est quelque chose qu'on a prédit avec Werner Kraut il y a très très longtemps, dans les premiers articles sur la théorie du champ moyen dynamique. Alors là, on ne solidifie pas vraiment. Ce qu'on regarde, c'est la double occupation. Donc la double occupation, elle vous dit à quel point le système est localisé. Si la double occupation est faible, le système est très localisé. Si la double occupation est forte, le système a des fluctuations de densité, comme on l'a vu. Et en fait, dans ces premiers calculs de champ moyen dynamique, on a montré que dans le régime où le système est liquide, donc on a un liquide de Fermi, et bien il y a un minimum de la double occupation en fonction de la température. Donc vous chauffez le système et vous localisez plus les particules. C'est exactement l'effet Pomerantchouk. Et cet effet disparaît quand on se met à atteindre le régime de U grand, où il n'y a plus d'état liquide. Et donc on a rien à gagner puisqu'on a déjà l'entropie du système localisé à basse température. Donc vous voyez comment cet effet existe à basse température. Alors ça, c'est des calculs très anciens qu'on avait fait avec Werner il y a très longtemps. Et il se trouve que l'approximation de champ moyen dynamique exagère un peu cet effet. On peut faire des calculs plus précis, bien sûr. On peut même maintenant faire des calculs absolument précis de cet effet, mais il existe quand même. Donc vous voyez ici, c'est un article toujours avec Mathias Troyer, Fuchs et al., il y a une quinzaine d'années, qui montre la double occupation en fonction de la température pour différentes valeurs de U par des méthodes Monte Carlo. Et donc vous voyez ici comment à U petit, donc quand le système est effectivement liquide, il y a bien un minimum de la double occupation. Les points ici, c'est les calculs numériques. Les lignes pointillées, c'est l'approximation de champ moyen dynamique, calcul numérique dans cette approximation. Donc vous voyez, à U petit, il y a un bon accord. Et puis à U plus grand, on voit que l'approximation de champ moyen dynamique exagère un peu cet effet, mais enfin il existe quand même, il n'est pas très grand, c'est 20%, mais enfin il existe. Et par ailleurs, les choses se mettent à changer quand les corrélations antiferromagnétiques se développent. Hein, puisque de nouveau, on n'a plus le log 2. Donc vous voyez qu'en fait, dans ce régime, vous voyez autour de U égale 8, on a vu que c'était le maximum de la température de Néel, on a donc trois régimes en fait. On a un régime haute température où la double occupation augmente quand on chauffe, ce qui sera comme on s'attend, on crée plus de sites doublement occupés par excitation thermique. Le minimum de Pomerantchouk, qui dans ce cas-là est assez chalot, on va dire, assez faible. Et puis ça se met à redescendre encore quand on crée les corrélations antiferromagnétiques. Donc il y a ces trois régimes. Un régime de Pomerantchouk ici, un régime haute température, et puis le régime où on commence à voir les corrélations antiferromagnétiques. Ça, c'est les mêmes calculs à deux dimensions. Toujours de l'article avec Thomas Schaeffer que j'ai cité tout à l'heure. Vous voyez comment aussi DMFT exagère un peu l'effet. L'effet est très faible à deux dimensions. À deux dimensions, sauf sur des systèmes plus frustrés, mais sur un réseau carré, l'effet est vraiment assez faible. Donc, il est un peu plus prononcé à trois dimensions. Alors en fait, il y a une vingtaine d'années, on avait réalisé que cet effet Pomerantchouk, donc ça c'est un article avec Félix Werner et Olivier Parcollet, entre autres, on avait réalisé que cet effet Pomerantchouk qui devait nous permettre de refroidir le système en changeant la constante de couplage. Donc en allant du couplage faible vers le couplage fort, on pensait que cet effet Pomerantchouk permettait de créer du refroidissement dans le système. Alors pour ça, il faut visualiser le diagramme de phase du modèle de Hubbard en termes d'entropie. Et je pense qu'on a été les premiers à tracer les courbes d'isoentropie, je ne sais plus comment ça s'appelle en thermodynamique, les courbes d'isoentropie, enfin d'isoentropie, du modèle de Hubbard. Et donc vous voyez que là encore, il y a une relation de Maxwell qui est intéressante. Si vous prenez la dérivée de l'entropie par rapport à U, à température donnée, vous pouvez montrer que c'est moins la dérivée de la double occupation par rapport à T. Donc ça veut dire que si dd dt est négatif, ce qui est l'effet Pomeranchuk, hein, c'est-à-dire qu'on a ce minimum, il y a un régime où la double occupation diminue par chauffage, donc ce terme devient positif, ça veut donc dire que l'entropie doit augmenter quand on augmente U. Autrement dit, si je trace les courbes d'isoentropie, elles doivent avoir cette courbure-là, dans le régime de couplage faible, où le système est liquide. De manière que quand j'augmente la constante de couplage, l'entropie augmente. Comme vous voyez ici, on passe de 0,7 à 0,75. Les nombres ici, ne les prenez pas de manière trop quantitative, c'était des calculs dans l'approximation de champ moyen dynamique, mais qualitativement, la chose est là. Et donc vous voyez ici comment on peut, puisque la courbure est comme ça, on peut avoir l'idée qu'en chauffant le système, en augmentant la constante de couplage, si on est adiabatique, on va suivre une courbe, disons, entropie comme ça, et donc refroidir. Donc voilà l'application, disons, c'est le refroidissement Pomeranchuk, si vous voulez. Alors, ça, c'est des calculs plus sophistiqués, un peu plus sophistiqués à trois dimensions, qui montrent que l'effet est un peu plus faible que ce qu'on avait prédit, mais qu'il existe quand même. Mais en fait, il n'est quand même pas très très fort à 3D, puisque vous voyez ici, le minimum est de l'ordre de 20%. Alors, entre-temps, et on aurait dû avoir l'idée quand on a écrit cet article, c'est que log 2 c'est bien, mais log d'un nombre plus grand c'est mieux. Et donc si vous avez un système fermionique avec plus d'état interne, vous allez avoir un effet Pomeranchuk beaucoup plus fort. Et donc l'équipe de Takahashi à Kyoto, qui fait de l'ytterbium, alors l'ytterbium ça a plein d'états hyper fins, et une symétrie en fait SU6. Donc là, on est en train de parler de log 6 et pas de log 2. Et dans cet article paru maintenant, je pense, il y a une dizaine d'années, ils ont montré en fait que dans un système SU6, on avait un processus de refroidissement plus efficace. Vous voyez ici, c'est une comparaison entre SU6 et SU2. Donc ça, c'est des points expérimentaux. C'est la température estimée atteinte dans le système. Alors, ce n'était pas très, très bas, hein, quand même. En fonction de la température initiale dans le piège, et ce graphe est destiné à vous montrer qu'on peut atteindre à température initiale dans le piège donné des températures plus basses dans le cas SU6 que dans le cas SU2. Et ce qui était dit, au moins dans cet article, c'est que l'effet qui était en jeu, c'était cet effet Pomeranchuk. Je ne suis pas complètement convaincu qu'ils avaient directement observé l'effet Pomeranchuk dans cette expérience, mais le truc assez spectaculaire, il est arrivé il y a 2-3 mois, c'est toujours ce groupe en Chine, donc le groupe de Yuao Shen, Jian Wei Pan et Tal, Chikan Yao, dans lesquels, toujours dans ce réseau avec flat top et 800 000 atomes, eh bien, ils ont mesuré la double occupation. Et voilà l'effet Pomeranchuk. La double occupation en fonction de la température. Et ils disent même que, toujours pour U de l'ordre de 8, ils observent non seulement le minimum de Pomeranchuk, mais aussi la tendance à aller vers l'antiferromagnétique, donc le dernier régime dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, quand vous comparez aux simulations numériques, donc en fait, ici, il y a une comparaison entre les points expérimentaux et une simulation numérique qui utilise le Monte Carlo déterminantal et une approximation LDA, parce qu'ils ont beau avoir une région plate dans le centre du piège, il y a quand même des ailes. D'accord ? Donc ces calculs tiennent compte de ces ailes, et voilà les calculs numériques. Ce n'est pas complètement quantitatif, même si quand vous comparez les nombres qui sont ici avec ceux qui sont là, donc j'ai regardé ça assez soigneusement, en fait, disons, au moins semi-quantitativement, ça marche assez bien. Le minimum est à peu près où il doit être, et les valeurs de la double occupation sont à peu près les bonnes. Je vous mets juste en garde contre une chose, c'est que ici, c'est la double occupation qui est représentée, et ici, ce qu'ils appellent D, en fait, c'est la fraction de double occupation, donc c'est, en gros, il y a un facteur 2 entre les deux. Donc le 0,22 ici, correspond bien à peu près au 0,11 ici, une fois qu'on match les deux définitions. Ça, c'est pour ceux qui auraient remarqué qu'il y a un facteur 2 entre ces deux coûts. Voilà, bon, je vais vous laisser sur cette, observation expérimentale. On va faire une pause de 20 minutes et ensuite on aura le séminaire de Tariq.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.